Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons aujourd'hui nous efforcer d'acquérir l'humilité. L'humilité est une vertu dont nous traitons à propos de la tempérance parce qu'elle vient modérer nos désirs d'orgueil, nos tentations d'orgueil. Cependant, elle est une vertu qui est bien plus importante que la tempérance. Saint Thomas nous explique qu'on classe les vertus en fonction de leur manière d'agir et non pas en fonction de leur dignité ou de leur importance. Enfin, pas seulement, disons. Et les premières vertus sont évidemment les vertus de foi, d'espérance et de charité, parce qu'elles nous mettent en contact direct avec notre fin, avec Dieu qui est notre fin. Pour juger de la valeur d'une vertu, c'est cela qui compte. Ensuite, viennent les vertus intellectuelles qui nous font contempler Dieu, puis la vertu de justice qui met de l'ordre par rapport à Dieu. Donc vous voyez, mes bien chers frères, on regarde Dieu, on le connaît par la foi, et tout de suite, normalement, si on est raisonnable, si on n'est pas libéral, si on respecte les principes, si on reconnaît vraiment la grandeur de Dieu, bref. Dès qu'on a considéré cette grandeur de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a un ordre qui mène à Dieu. Dieu met les choses en ordre et nous devons respecter cet ordre. Et cela, c'est l'œuvre de la vertu de justice. Maintenant, une fois qu'on a vu l'ordre et qu'on le veut, il va falloir se soumettre à cet ordre. Et là est la vertu d'humilité. Elle vient directement après la justice, parce que la justice détermine l'ordre, elle le fixe. L'humilité s'y soumet de bon cœur. C'est donc une vertu très importante. Bien qu'elle soit traitée avec la tempérance, à cause de la ressemblance qu'elle a avec la tempérance. Comme d'autres vertus ont des ressemblances avec la tempérance. Or, c'est une vertu, c'est la première vertu qui est attaquée. Enfin, la première, quasiment. Le père Timon David, éducateur de jeunesse, dit qu'il n'a jamais vu un jeune avec le tabac sans que l'impureté suive de près. Et je me suis posé la question, et il ne donne pas la raison. Je me suis posé la question pourquoi cela. Et après avoir observé longtemps la jeunesse, j'en viens à cette conclusion très simple, que si l'impureté suit de près le tabac, chez un jeune, c'est que le tabac est une marque d'orgueil et que l'impureté a pour première cause, de fait, l'orgueil. Parce qu'on se croit au-dessus de la loi. C'est vous dire si cette vertu est importante, et s'il faut la cultiver, et si elle fait partie de l'éducation. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'éducateurs qui y font attention. Il y avait autrefois beaucoup d'éducateurs qui faisaient attention à des marques de respect qui forment à l'humilité. Parler modestement à un supérieur, être poli, respectueux, oui, envers le supérieur, est une manière de former à l'humilité. Nous verrons ça avec les 12 degrés. N'empêche qu'aujourd'hui, il est très important d'aller très loin dans la formation de l'humilité, parce que plus rien n'est naturel. En quoi consiste-t-elle ? Elle consiste en un mouvement de la volonté qui se soumet à l'ordre que Dieu nous impose et que nous mettons sous l'influence de Dieu dans notre vie. Elle est donc dans la volonté. C'est une volonté de se soumettre à l'ordre. C'est une volonté d'obéir à Dieu, d'être sous Dieu. Cependant, il y a dans l'humilité un aspect intellectuel, c'est-à-dire de connaissance, qui est très important, parce que la volonté est une faculté aveugle, et si on ne l'éclaire pas, on fait du volontarisme, c'est-à-dire que on se soumet sans comprendre pourquoi, et cela ne tient pas très longtemps. L'éclairage qui est donné à l'humilité, et Mgr Lefebvre insistait beaucoup sur ces raisons de l'humilité. Il allait presque jusqu'à faire de l'humilité une vertu intellectuelle, dans l'intelligence, la vérité. Disons que c'est le motif de l'humilité. La considération qui nous met dans l'humilité, c'est que tout vient de Dieu et que quoi qu'il y ait en nous, c'est un don de Dieu. De lui-même, l'homme, lorsqu'il ne respecte pas les dons de Dieu, ne peut que détruire. Et c'est Dieu qui construit. Vous allez me dire, mais l'homme agit bien avec ses dons. Oui, il agit. D'abord, ce sont des dons avec lesquels il agit. Et le fait d'agir conformément aux dons de Dieu est également un don de Dieu. La fidélité au don de Dieu est un don de Dieu. Dieu est l'être qui se suffit par soi, la créature est l'être qui ne s'explique et n'existe que par un autre, et cet autre c'est Dieu. C'est la définition de la créature, c'est d'être par un autre. Non pas par soi. Si vous regardez une créature et que vous la regardez seule, vous pouvez expliquer un certain nombre de choses. Pourquoi le chat a tel comportement, pourquoi l'homme a tel comportement, mais vous ne pouvez pas tout expliquer. Pourquoi le chat est-il chat? Pourquoi l'homme existe-t-il? Vous êtes bien obligé de remonter à Dieu qui, dans sa sagesse, a créé l'homme et les animaux et tout le reste, et qui, dans sa sagesse, fait exister les hommes, les animaux, qu'il pourrait ne pas faire exister. La raison profonde d'une créature se trouve en Dieu, tandis que la raison profonde de Dieu se trouve en Dieu. En lui-même, en soi, Dieu existe par soi. C'est une considération philosophique, métaphysique, mais rassurez-vous, évidente, absolument évidente. Le grand désir de Satan pour perdre les hommes, c'est d'arriver à la racine des choses. Et pour arriver à la racine des choses, il faut que les hommes soient orgueilleux. Mais pour assurer l'orgueil des hommes, parce que l'orgueil est naturel chez l'homme blessé. Malgré tout, il y a toujours un moment où normalement, même un orgueilleux sait qu'il ne fait pas tout ce qu'il veut, que Dieu est le maître et qu'on ne peut pas complètement aller contre Dieu. Ne serait-ce qu'au moment de la mort, par exemple, ou dans la maladie. Que va faire Satan ? Il va brouiller la considération intellectuelle, raisonnable, de la cause de l'humilité. Il va éteindre la lumière qui éclaire l'humilité. Cette lumière, c'est la supériorité de Dieu. Et comment le fait-il ? Il le fait par l'évolutionnisme. L'évolutionnisme est une manière de considérer Dieu tel que Dieu n'est qu'un pauvre être inférieur qui finit par devenir supérieur grâce à l'évolution. Ça, c'est l'évolution talmudique. Si on prend l'évolution, l'évolutionnisme tel qu'il est enseigné partout dans les écoles aujourd'hui, c'est l'homme n'a pas besoin de Dieu pour trouver les raisons, pour trouver, je dis bien, les raisons de son existence. Ces raisons de l'existence viennent de l'évolution. Alors c'est le hasard, l'évolution, mais évidemment si on dit le hasard, ça passe pas. Alors on donne des termes très savants, très scientifiques. Mais c'est cela la réalité. L'homme n'a plus besoin de Dieu. Alors on ne dit pas du coup comment il se fait qu'il soit là. Parce que leurs théories sont de la fumisterie. Le Big Bang, si on traduit Big Bang, j'ai pas fait beaucoup d'anglais, ça veut dire gros boom. Alors Big Bang, c'est une belle explication, mais gros boom, ça n'explique pas grand-chose. Hein. Donc l'évolutionnisme a été voulu pour cela, pour éteindre la lumière qui est à la source de l'humilité. Alors quand on a vu cela, il reste à la pratiquer. Parce que tous ceux qui ont vu ne font pas ce qu'ils ont vu. Rappelez-vous bien cela, hein ? Il ne suffit pas d'avoir vu, il faut faire. Et la vertu d'humilité va nous soumettre à Dieu. Alors elle va avoir plusieurs aspects. Le premier aspect de l'humilité est une reconnaissance que le bien qui est en nous vient de Dieu. L'humilité ne consiste pas à nier le bien qui est en nous. Un évêque n'a pas le droit de dire qu'il est un pauvre type. Un évêque est un évêque. Seulement, il doit reconnaître que cette dignité et toutes les qualités qu'il possède ne lui viennent que de Dieu. Un chrétien n'a pas le droit de dire qu'il n'est rien du tout, puisque Saint Pierre dit que le chrétien appartient à une race royale, à un peuple saint. Donc ce serait mépriser les dons de Dieu que de nous mépriser nous-mêmes. L'humilité est très souvent mal comprise. On croit qu'il s'agit d'un artifice par lequel on se considère comme un pauvre type alors qu'on n'en est pas un, parce que ça nous fait du bien de nous considérer comme des pauvres types. Mais c'est pas ça. L'humilité consiste à voir que tout ce que nous avons vient de Dieu et que Dieu est grand. La Sainte Vierge le dit d'ailleurs dans son Magnificat. Mon âme magnifie le Seigneur, car le Seigneur a fait en moi de grandes choses. Elle ne dit pas des petites choses. Il a fait en moi de grandes choses. Saint est son nom, parce qu'il a regardé l'humilité de sa servante. L'humilité de la Sainte Vierge consiste à savoir que d'elle-même elle n'est rien, mais en même temps à considérer que Dieu a fait en elle de grandes choses. Le deuxième aspect de l'humilité, après la reconnaissance, C'est la soumission à cet ordre divin dans lequel Dieu veut nous faire vivre. Soumission qu'on va trouver, par exemple, dans la foi. On se soumet à la révélation. La raison accepte de ne pas tout comprendre parce qu'il y a des lumières qui viennent d'en haut, qui sont supérieures à la lumière de la raison pure. Et donc la raison fait humilité, acte d'humilité en acceptant des vérités qui la dépassent, en les acceptant par la foi. On trouve également l'humilité dans le service du bien commun. L'homme n'est pas tout. Il appartient à une société, un ensemble qui le dépasse. Sans nous engager dans la politique, il est suffisamment clair que l'homme appartient à l'Église, qu'il est au service de l'Église, qu'il se doit à l'Église, plus qu'à soi-même. Et c'est en cela que Mgr Lefebvre fut un homme très humble. C'est que il n'a pas cherché son confort personnel. Il s'est rendu compte, il s'est bien rendu compte qu'étant successeur des apôtres, il avait un devoir auquel il n'avait pas le droit de se soustraire. Le bon Dieu me demandera, qu'as-tu fait de ton épiscopat? Cela est de la vraie humilité. L'humilité, donc, nous soumet à l'ordre. Saint Benoît donne 12 degrés à l'humilité. Le premier degré, c'est la crainte de Dieu. Le deuxième, de ne pas aimer faire notre propre volonté. Et puis, le troisième, c'est l'obéissance à notre Seigneur, au Père Abbé, pardon, comme notre Seigneur s'est fait obéissant. Le quatrième, c'est la patience dans l'obéissance, y compris quand les choses sont très difficiles. Et alors, on focalise là-dessus. On focalise sur l'humilité, obéissance. Et on oublie le premier degré, qui est la crainte de Dieu. L'obéissance est un moyen, l'obéissance au supérieur, est un moyen de parvenir à l'humilité. Parce que la suite logique est celle-ci. On craint Dieu, donc on veut se mettre absolument dans le respect de Dieu. On ne cherche pas à faire sa propre volonté. Puis dans les temps normaux, qui ne sont pas des temps de crise, on ne fait pas sa volonté et on accepte très facilement la volonté du Père Abbé parce que tout est en ordre. Mais vous voyez que faire la volonté du Père Abbé, lui obéir, est un moyen pour ne pas pratiquer notre propre volonté, notre amour propre, et nous soumettre à Dieu. Aujourd'hui, où toutes les choses ont été complètement déformées, on arrive à ceci que par une fausse humilité, Satan a réussi là où il n'avait pas réussi avec l'évolutionnisme. L'évolutionnisme a réussi chez beaucoup de gens, mais pas chez tout le monde. Parce qu'il y avait quand même une crainte de Dieu encore chez beaucoup de gens qui n'admettent pas cela, l'évolutionnisme. Notamment les tradis, les traditionalistes. Alors Satan s'y est pris d'une autre manière. Tu crains Dieu. Or, la meilleure manière de craindre Dieu, c'est de pratiquer la vertu d'obéissance. Va voir Saint Benoît, le père des moines. Donc obéis, 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 tu seras humble. Et comme l'humilité est parmi les premières vertus, eh bien tu seras un homme vertueux. Et donc il faut bien comprendre que l'obéissance est légitime lorsque elle va dans le sens de la crainte de Dieu et qu'elle devient illégitime lorsqu'elle va contre la crainte de Dieu. Il faut être très attentif en éducation. Lorsqu'on fait obéir, il faut faire obéir. Et il faut faire obéir l'enfant même à des choses qu'il ne comprend pas, parce qu'il doit faire confiance à ses parents. Et en même temps, il faut faire très attention à ce que l'obéissance n'occulte pas la crainte de Dieu, mais au contraire, la met en valeur. Maman Marguerite, la mère de Saint Jean Bosco, lorsqu'elle devait s'absenter de la maison, ne serait-ce que pour aller au marché, prenait les enfants et elle leur disait, parce qu'ils devaient toujours obéir, ils étaient très obéissants, elle leur disait, mes enfants, vous allez bien obéir à ce que je vous ai dit, mais je ne vous verrai plus, parce que je m'en vais. Mais sachez que Dieu continuera à vous voir, même si moi je ne vous vois pas. Et par là, on oriente l'obéissance vers la crainte de Dieu. Et Mgr Lefebvre disait, le coup de maître de Satan est d'avoir jeté les fidèles dans la désobéissance par obéissance. Et c'est flagrant, à la suite du Concile Vatican II, des milliers, des millions de catholiques sont devenus modernistes par obéissance. Et dans les épreuves actuelles de la Fraternité Saint-Pie-X, des milliers de gens vont se rallier par obéissance. Nous avons commencé à énumérer quelques degrés de l'humilité. Je vous donne les autres. Cinquième degré, reconnaître et confesser ses fautes, même commises en secret. Et c'est pas seulement les confesser aux prêtres, c'est également les confesser aux supérieurs pour qu'ils les trouvent remède. Être content, c'est le sixième des situations les plus basses. Et s'estimer incapable de tout bien, incapable tout seul, n'est-ce pas? Pas incapable avec Dieu. Ne pas sortir de la règle commune du monastère. Et donc dans la famille, ne pas sortir de la règle commune de la famille. La famille est un petit monastère et il est très important d'accepter cette forme d'humilité qui consiste à ne pas être indépendant. Enfin, garder le silence, bon, raisonnablement, bien entendu. Ne pas être prompt à rire, c'est-à-dire ne pas être gamin, collégien. Parler en peu de mots et sans éclat. Et puis, avoir un comportement extérieur. Saint Benoît dit les yeux baissés au sol parce qu'il s'adresse à des moines et puis il leur fait les commentaires. Et un comportement modeste, tout simplement. Saint Thomas d'Aquin, lui, commence l'énumération par le degré le plus bas. Pourquoi cela? Parce que Saint Benoît voit l'humilité par rapport à Dieu et Saint Thomas voit l'humilité sous son angle de formation. Alors on commence par le comportement extérieur. C'est très important chez les jeunes enfants. Tu n'es pas tout seul à table. Tu n'es pas tout seul dans une conversation. Comportement extérieur. De là, on va, les enfants se taisent en présence des grandes personnes. Et puis, on respecte la règle de la famille. Vous voyez, on forme là. Et c'est une échelle qu'on monte. De là, on arrive à reconnaître ses fautes facilement. Et puis, on arrive jusqu'à la crainte de Dieu. Les deux manières de voir sont évidemment complémentaires. Saint Benoît est clair. Il voit les choses par en haut, Saint Thomas est pratique. Pratiquons bien cette humilité, je vous ai dit que la Sainte Vierge était très humble dans son Magnificat, parce qu'elle met en valeur les dons de Dieu en reconnaissant qu'ils sont des dons de Dieu, que d'elle-même elle ne vaudrait rien, mais que grâce à lui, effectivement, il a fait en elle de grandes choses. Nous voyons l'humilité chez notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans sa nature humaine, reconnaît tout ce qu'il doit à son Père. Et même dans sa nature divine, il doit tout à son Père, même s'il est son égal. Et l'humilité exalte. Mais cela, je vous en parlerai une autre fois. Celui qui s'abaisse sera exalté, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Si je ne vous le démontre pas, du moins faites confiance à la parole de Dieu et profitez de ce carême pour vous examiner par rapport à cela. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.